Vous écoutez
RMC. RMC.
Notre nouvelle maison.
Oh, la maison.
On déménage.
Viens d'emménager.
Bah, tu vas déménager.
Mais pourquoi?
Parce qu'on te le dit.
C'est brillant, quand même.
Jusqu'à 8h.
C'est brillant. J'ai fait appel à des particuliers. Et effectivement, il y en avait qui étaient particuliers.
On commence avec l'entrée. Donc l'entrée, avec des placards dans cette entrée de part et d'autre. Des placards où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez.
Votre maison.
Bon, ici, ils avaient mis un disjoncteur, mais chacun est fait ce qu'il
veut. Vous indiquiez refait à neuf. Tout à fait. On s'y est mis avec 8 potes. On l'a refait à neuf. Attention, on a conservé le charme de l'ancien.
François Sorel.
Ah, c'est ça l'odeur.
Christian PC.
Qui me faisait une joie de ce déménagement.
Là, c'est un florilège.
Ah oui. Là, c'est un vrai régal. Bravo à Kevin et puis à Gilles, alors, parce que franchement, c'était bien.
Ouais.
Alors, Christian, on va déménager ce matin.
Oui, on va peut-être déménager. On est avec Éric Yanouche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur exécutif du réseau ERA.
Absolument.
Hein ? C'est quelques agences ?
Quelques agences, environ 420 agences en France, réseau international d'agences immobilières d'origine américaine. Voilà.
D'accord.
Alors, on va parler d'immobilier. Vos questions, immobilier, profitez-en. Hein. C'est le moment où jamais on a un spécialiste avec Christian. Le 3216, l'appli RMC Direct Studio, notamment sur l'immobilier ancien, Christian.
Oui, on va parler essentiellement immobilier ancien. Alors, ma première
c'est
question.
C'est quoi l'immobilier ancien ?
Oui,
tiens, qu'est-ce qu'on dit ?
À partir de quand c'est de l'ancien ?
Bah, voilà,
c'est plus du neuf. Voilà, exactement.
C'est simple.
Quand on est
mais un immeuble de 2017, c'est de l'ancien ?
2017, alors en fait ça dépend parce que on considère que c'est de l'ancien quand on est sorti de la période de neuf, en gros, c'est-à-dire que si on le revend, on sera pas en TVA, on sera en droit d'enregistrement. Donc voilà,
d'accord,
ça c'est considéré souvent comme l'ancien parce que ça a pu les caractères du neuf, notamment au niveau de la revente.
En fait, l'État considère aussi à partir de 2 ans, par exemple, pour un certain nombre d'aides, il faut que l'appartement ait plus, ou la maison ait plus de 2 ans.
Oui, exact, hein, exact.
Donc on peut presque considérer que 2 ans, c'est devenu de l'ancien. Alors tout bêtement, avant d'entrer dans les considérations liées à la période qu'on vient de vivre, mais est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Il y a quelques instants en off, vous disiez c'est toujours le bon moment.
Ben oui, c'est toujours le bon moment, tout simplement parce qu'il vaut mieux payer un crédit qu'un loyer. On est obligé de se loger, ça c'est toujours vrai. Donc autant payer le logement pour pouvoir devenir propriétaire,
d'accord,
c'est-à-dire qu'il constitue un patrimoine,
oui,
quand on peut le faire, évidemment.
D'accord, mais quand on achète, d'abord il faut avoir les moyens de payer son crédit, et puis on a aussi des charges qui, dans certains cas, peuvent se trouver gonflées par des travaux, des choses comme ça. Alors que lorsqu'on est locataire, on en est exonéré.
Oui, effectivement. Donc il faut bien regarder. Je dis pas qu'il faut, il faut se fermer les yeux, etc. Il faut bien regarder. Mais d'une manière générale, il vaut mieux payer un crédit plutôt qu'un loyer. Je pense qu'on est d'accord là-dessus.
Oui.
Donc évidemment, après, si on achète une ruine.
Mais tout dépend
de
non. À Paris, c'est plus compliqué.
Alors, à Paris, oui, il faut avoir les moyens, surtout à Paris. Donc, effectivement, si on n'a pas les moyens, de louer un appartement à Paris, c'est quand même onéreux, même avec le plafonnement des loyers. Donc, qui a les moyens, effectivement, de louer à Paris, c'est pas évident. Souvent, c'est des petites surfaces où beaucoup de gens vont avoir tendance à aller un peu plus loin. Chose qui se passe, effectivement, de manière un peu générale. Pour habiter à Paris, il faut quand même avoir les moyens.
Alors, justement, on va y venir sur cette question du transport. Ma question, l'essentiel de notre émission aujourd'hui, est-ce que le confinement finalement a changé le regard des gens sur leur logement, que ce soit une maison, mais surtout quand on est en appartement, parce que quand on s'est retrouvé confiné pendant toutes ces semaines dans un, même si on a 50 mètres carrés à Paris et qu'on a trois enfants sur le dos, ça n'a pas été simple. Est-ce que justement il y a une vision différente? Est-ce que les critères de sélection ont changé du fait du confinement?
Absolument. Il y a eu énormément de choses qui ont changé dans la perception des gens. J'ai discuté avec beaucoup d'agences, on a mené des enquêtes en interne.
Oui.
Et effectivement, le fait d'être coincé, d'être confiné, a provoqué chez les gens un certain nombre de réactions. Notamment, on a été obligé de vivre chez soi. Donc, il y a un certain nombre de choses au niveau des aménagements. Donc, on s'est dit, bah là, il faudrait quand même vivre comme ça. Alors, avant, je vivais souvent dehors. Je vais moins en vase clos. Et là, depuis que je vis en vase clos, forcément, j'ai découvert un certain nombre de choses et je ressens certaines nécessités que j'avais pas. Également, beaucoup de demandes sont faites aujourd'hui sur les balcons, sur les terrasses, sur les raies de jardin. Les raies de jardin.
Ah oui, les raies de jardin dont personne ne voulait parce qu'on pouvait
exactement
regarder chez eux.
Exactement.
C'était pas sécure au niveau de
voilà,
au niveau des cambriolages.
Mais qu'est-ce qui intéresse maintenant? Pourquoi les raies de jardin en fait?
Bah, les raies de jardin, tout simplement parce que on a ressenti vraiment une gêne. On a été bloqué, on a été coincé. Et le fait aujourd'hui de pouvoir avoir cet espace, en fait, c'est la vraie question, c'est l'envie d'espace, l'envie de plus être coincé. Vous voyez, c'est un petit peu général. Alors ça se traduit de manière différente, évidemment, suivant les situations. Il y a des gens qui sont obligés de rester à Paris. Donc avoir une maison à Paris ou même un arrêt-jardin, c'est très difficile. Par contre, d'avoir un balcon, peut-être une petite terrasse, c'est possible. Ou alors, il y a des gens aussi qui sont carrément partis. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Qui sont partis plus loin. Avec des coûts de l'immobilier qui sont beaucoup plus bas. Avec, pour certains, des possibilités de télétravail. Donc ils ont découvert le télétravail.
Ce confinement a été une prise de conscience.
Exactement,
en fait,
hein. Oui, absolument.
C'est dingue.
Absolument. Et c'est très intéressant, même sociologiquement. Bon, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Mais ça a des conséquences sur la vie carrément des gens.
Mais on voit que ça n'est pas terminé parce que, je sais pas dans votre entreprise, mais moi je côtoie beaucoup d'entreprises, notamment dans la construction, etc. Il y a une majorité de gens qui ne sont pas encore au travail, qui sont en télétravail.
Ah ben c'est pas terminé. De
mais
toute
c'est
façon,
incroyable, moi,
vous savez, tant qu'on n'a pas trouvé de remède efficace ou de vaccin contre ce coronavirus, on traîne ce truc-là pendant un certain temps. Donc d'ailleurs, on ne sait pas trop effectivement quand est-ce que ça va arriver. Et on n'est pas à l'abri non plus d'un autre virus, d'un autre problème. Il y a déjà eu ces cas-là en Asie. On ne les a pas eu chez nous, mais on pourrait très bien avoir ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a les esprits qui ont changé là-dessus. Et les gens s'installent dans une possibilité, en fait, qu'on puisse se reconfiner. Donc c'est en train de s'imprégner dans les esprits.
Alors il y a aussi la pièce supplémentaire, justement, pour le télétravail, où le coin bureau.
Le coin bureau, tout à fait.
J'ai expliqué plusieurs fois que dans ce confinement, puisque je suis entre Caen et Paris, et à Caen, j'ai installé mon bureau, mais durablement, du coup, hein, dans la véranda. Alors les plantes, ça va pour l'instant, je ne sais pas comment je vais gérer les choses cet hiver, parce qu'il faudra bien rentrer les plantes. Bon, j'espère que cet hiver, l'hiver prochain, on aura tourné la page. Mais je crois que ça, c'est important. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de surface ou ça veut dire un aménagement
c'est les
différent?
Deux. Les deux, mon capitaine, j'ai envie de vous dire. Oui. Ça veut dire les deux, effectivement. Il y a plus de surface, il y a un besoin, une envie et il y a une nécessité aussi. Si on télétravaille, évidemment, il faut un coin bureau. Il faut peut-être une pièce supplémentaire. Et ça aussi, c'est des demandes qui sont faites en matière immobilière où il y a des gens carrément qui déménagent parce qu'ils disent « je voudrais un coin bureau, donc j'ai besoin d'un espace un peu plus grand, d'une pièce de plus ». Il y a aussi des gens qui font des aménagements spécifiques parce qu'un bureau, évidemment, c'est pas forcément évident.
Oui.
À Paris, où le prix du mètre carré est à plus de 10 000 euros, je rappelle quand même, se ménager un espace dans un endroit où on compte les mètres carrés,
ça coûte
de l'argent. Ben voilà. Donc à ce moment-là, il faut vraiment s'organiser. Donc là aussi, il y a un espace pour la décoration d'ailleurs, l'aménagement.
Jean-Pierre est avec nous au 32-16, messieurs. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour messieurs.
Bonjour Jean-Pierre.
Bienvenue,
bonjour.
On vous écoute.
Merci de m'avoir déjà pris à l'antenne. Voilà, j'ai une petite question. J'ai fait une demande de crédit à ma banque. Et donc j'ai droit à 300 000 euros. Malheureusement, pour faire l'achat, soit dans le neuf ou dans la rénovation, il faut que j'amène 10% de la somme. Et là, évidemment, ça bloque. Alors, est-ce que ça dépend de l'âge? Est-ce que ça dépend... Je suis dans le flou total.
C'est ce qu'on appelle l'apport.
Alors,
c'est ça. Hein.
Attendez, moi, je peux vous dire qu'il y a des banques qui font du 100%. Hein. Ça existe, hein, c'est pas monsieur Alouche.
Ça existe. Alors le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en fait les banques déjà qui gagnaient pas beaucoup d'argent avec le crédit immobilier ont aujourd'hui peur. Elles ont peur qu'il y ait des problèmes économiques et qu'il y ait des défaillances notamment de personnes qui pourraient se trouver au chômage.
Le marché s'est tendu du crédit.
Le marché, alors
avec le Covid.
C'est pas tellement les taux qui se sont tendus parce que les taux ont remonté mais légèrement, oui. Mais c'est
oui.
Pas énorme.
Oui, c'est marginal.
C'est surtout les conditions.
Ils demandent 10%
d'apport. Ils demandent des apports.
Voilà.
En fait,
sur 300 000 euros, ils demandent 30 000 euros.
Exact. Et vous avez vu plusieurs banques, Jean-Pierre?
Non, pour l'instant, j'en ai vu qu'une.
Ah bah, ah, voilà, attendez. La concurrence, hein, allez voir aussi.
Première chose, allez voir.
Voilà. Il y a des courtiers qui permettent de comparer. Hein.
D'accord.
Allez-y, parce que c'est en soi, si vous voulez, ça n'est pas juridiquement une obligation. Les 10%, oui, mais la banque peut vous prêter la totalité, ou bien vous pouvez aussi avoir deux établissements bancaires. Hein.
Mais c'est vrai.
D'accord. Oui. Parce que dans cette banque-là, j'ai vraiment tout pris, voilà, pour être tranquille. Et maintenant que je demande évidemment un crédit, là, c'est bizarre, ça bloque. Alors, pour leur donner de l'argent, pour faire les assurances et tout
là, ils sont contents.
Voilà. Et dès qu'on leur demande pour un crédit maison, alors là, c'est bizarre, c'est un refus. Il faut amener des apports, il faut amener des garanties. Voilà.
Ce que vous avez intérêt à faire, monsieur, un petit conseil que je vous donne, c'est d'aller voir plusieurs banques.
Mais bien sûr.
Partez effectivement de votre banque habituelle et avec une proposition qui forcément sera pas bonne, je vous le dis très clairement, et allez voir d'autres banques. Et après, vous retournez voir votre banque si vous voulez.
Voilà.
Et
vous verrez qu'ils vont s'aligner sans aucun problème.
Exact.
D'accord, parce que eux, ils m'ont dit que au jour d'aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui est passée, qu'il fallait donner 10% d'apport. Enfin, ils m'ont sorti un tas de...
Allez voir un courtier.
Il n'y a pas de loi sur les apports. Il y a effectivement une règle qui veut qu'on ne puisse pas endetter au-delà, normalement, de 33% les gens. Effectivement, parce qu'en moyenne, il y a effectivement 30%
de logement. Ça, c'est sur l'endettement.
Mais sur l'apport, non, il n'y a pas vraiment de règle. Il y a des instructions en interne de la part des banques, par contre.
Est-ce que, justement, la mobilisation des banques sur le soutien aux entreprises ne conduit pas aussi à ce qu'elles soient moins disponibles
moins généreuses avec
Alors, il faut savoir que l'accompagnement des banques vis-à-vis des entreprises, c'est l'État essentiellement qui finance. Hein. C'est pas tellement les banques. Oui. Je pense qu'il y a vraiment une crainte.
L'État donne des garanties.
Exact.
C'est ça.
Exact.
Hein.
Je pense qu'il y a.
Il y a quand même une répercussion par rapport aux particuliers.
Je pense que c'est plus dû, à mon sens, d'une crainte des banques d'avoir un secteur immobilier et d'être plombé par des crédits avec des gens qui seraient défaillants. C'est surtout la difficulté.
Mais c'est vrai que on nous a toujours conseillé d'avoir un petit apport quand même quand on souscrit un crédit, non ?
Oui, mais effectivement, on pouvait, jusqu'à une période assez récente, avoir aucun apport, sans aucun apport. Dès lors qu'on avait évidemment un bon dossier, il faut être solvable, il faut avoir des revenus réguliers, il faut pouvoir supporter le crédit, mais ça, c'est une constante. Mais là, aujourd'hui, il demande un apport parce que ça permet de réduire, justement, le nombre, peut-être, le montant de crédit immobilier, du portefeuille de crédit immobilier de la banque.
Comment se portent les transactions immobilières actuellement post-Covid, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a un attentisme de la part des vendeurs, des acheteurs? Est-ce que vous voyez des comportements étonnants que vous n'aviez pas avant?
Alors il y a un grand besoin besoin d'immobilier puisqu'on était à plus d'un million de transactions avant la période de confinement et il y a un besoin immobilier qui demeure et qui n'a pas pu s'exprimer pendant deux mois. Donc ce besoin il s'exprime aujourd'hui. C'est un petit peu comme si vous tirez un élastique puis d'un coup vous le lâchez, ça part. Donc là on a énormément en ce moment de ventes immobilières qui se passe et on ne sait pas évidemment ce qui va devenir par l'avenir parce que ça va dépendre de la situation économique, du chômage des gens et là aujourd'hui on ne voit pas clair. Néanmoins les transactions immobilières aujourd'hui sont extrêmement importantes. Il y a beaucoup
de marché dynamique.
Ah, extrêmement dynamique. Il y a énormément de demandes.
On revient dans un instant, Christian.
On sera toujours là.
Et je pourrais poser quelques...
On va parler de viager aussi.
Et ben voilà, moi j'aimerais avoir quelques conseils parce que franchement, comme vous êtes increvable, il va falloir que je demande quand même à Sophie Richard, qui est fondatrice du réseau Viagimo. Ce qu'il faut que je fasse.
On va la voir tout de suite.
Un petit croche-petit, est-ce que j'ai le droit, exemple, bien placé, hein. Allez, à tout de suite, c'était RMC 7h42.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Il est 7h47, Christian Pessé est toujours là.
Oui.
Et évidemment, notre invité aussi, nos invités, Éric Alouche, qui est directeur exécutif du réseau immobilier ERA. Et nous avons aussi Sophie Richard, Christian, avec nous.
Oui, Sophie Richard, qui est fondatrice du réseau Viagimo. Bonjour, Madame Richard.
Bonjour, Éric.
Voilà,
vous connaissez bien.
Oui, juste une petite précision. Restez avec nous dans un instant. Je vous expliquerai comment remporter une piscine. Voilà, je referme la parenthèse.
Et très intéressant.
Ben voilà, c'est pas mal, hein, Sophie.
Oui,
on est d'accord.
Je vais rester en ligne.
Voilà. Sophie Richard, le mot viager, évidemment, c'est complètement associé à un film célèbre. Est-ce que c'est pas complètement un gars, excusez-moi, mais est-ce que ça fait pas partie des solutions d'autrefois? Et est-ce que sur le plan moral, ça pose pas un petit problème quand même?
Ah, ce célèbre film de Serge Tchernia, et soit dit en passant, il est très, je me suis beaucoup amusée à le regarder.
Eh oui.
Et si je peux me permettre, Christian, il appartient au temps ancien. Et c'est vrai que la réalité du viager, après, je peux comprendre, parce que quand on ne connaît pas, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur, c'est normal. Mais pour ma partie, je suis vraiment spécialiste de cette vente et je suis sur le terrain. Et je m'aperçois au quotidien que cette vente est méconnue, vraiment, et souffre d'idées reçues.
On est là pour ça. En quelques mots, comment ça marche? Il y a plusieurs solutions, on s'y perd un peu, occupé, alors, libre, le bouquet, etc. Bon.
Alors, en quelques secondes, parce que je pourrais en parler des heures, et c'est pas l'objectif de la matinale.
Non, pas vraiment.
Mais le viager, c'est avant tout une vente immobilière, donc on est dans le sujet de l'immobilier, c'est parfait, avec des particularités, des spécificités quant aux conditions et au prix. Vous allez trouver deux types de viagers, principalement le viager occupé et le viager libre. Dans le cadre du viager occupé, le vendeur reste vivre chez lui en percevant la plupart du temps un bouquet, une somme versée comptant à la signature chez le notaire.
D'accord.
Et une rente viagère toute sa vie durant. Mmh. Et l'acquéreur, lui, va bénéficier d'une décote d'occupation. Ça veut dire qu'il va acheter de l'immobilier à prix réduit. Et puis, vous avez le viager libre. Comme dans une vente traditionnelle, le vendeur va quitter son logement en remettant les clés. Et l'acquéreur, lui, va pouvoir soit mettre en location le bien ou bien accéder à la propriété, devenir propriétaire. Et j'entendais Eric parler tout à l'heure justement des conditions d'emprunt qui étaient peut-être plus restrictives ces derniers temps depuis le confinement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le viager libre, on peut acheter sans nécessité d'avoir recours à l'emprunt. Donc ça peut intéresser beaucoup de personnes, de vos auditeurs de ce matin, qui ne connaîtraient pas ce dispositif et qui peuvent accéder à la propriété en viager libre.
D'accord. Alors, j'ai vu aussi que fiscalement, ça présentait un certain nombre d'avantages.
Oui, effectivement, on a pas mal d'avantages pour que ce soit côté vendeur ou acquéreur d'ailleurs. Côté acquéreur, on va acheter un bien immobilier à prix réduit et les frais de mutation, les frais de notaire seront calculés sur la valeur occupée en viager occupé.
D'accord.
Pour les personnes qui sont aussi sujets à l'IFI, acheter en viager peut permettre de sortir du champ d'application de l'IFI puisqu'on va reprendre encore une fois la valeur occupée du bien et non pas la valeur vénale, la valeur globale du bien.
D'accord. Une structure comme la vôtre, vous faites quoi? Vous êtes comme une agence? Comment ça marche?
Oui, on est soumis à la loi Auguet, donc on est agent immobilier. On ne va faire les agences du réseau Viager Immo, donc il y a des agences un petit peu partout en France maintenant, ne font que de la vente en viager et de la vente à terme.
D'accord.
Mais on est agent immobilier, soumis à la même réglementation. Et on va conseiller. On va recevoir du coup les vendeurs qui vont avoir besoin de conseils, comprendre la dynamique du viager. On va faire l'estimation, on va prendre le mandat comme un agent immobilier, on va commercialiser, mettre en communication le bien en viager.
D'accord.
Et puis on va sélectionner bien sûr un acquéreur, vérifier la solvabilité et puis assurer la gestion viagère également pour les personnes qui ne veulent pas être lâchées dans la nature après la signature de l'acte notarié.
Ok. Est-ce qu'avec le vieillissement de la population, c'est une bonne affaire? Parce qu'on voit que les gens vivent de plus en plus longtemps. Donc c'est quand même...
Et tant mieux.
Bien sûr.
Oui, je vois ce que vous voulez dire, Christian.
Eh oui.
Les calculs, on achète moins cher un viager aujourd'hui qu'on l'achetait il y a plusieurs années. Pourquoi? Parce que les estimations viagères tiennent compte de l'espérance de vie actuelle.
D'accord.
Donc les données sont actualisées par rapport à l'espérance de vie des vendeurs. Mmh. Et c'est vrai que, à mon sens, je pense que c'est un dispositif qui est vraiment moderne, bien qu'il date du temps des Romains, à haute valeur sociale. On va mutualiser les intérêts de chacun, vendeur et acquéreur, dans un rapport gagnant-gagnant.
Merci beaucoup, Sophie Richard.
Merci. Je rappelle, vous êtes fondatrice de viagimmo.fr.
Voilà, et on remercie aussi Eric Alouche de nous avoir accompagnés ce matin.
Merci beaucoup, avec plaisir.
Pour tous ses conseils, directeur exécutif du réseau immobilier ERA avec plus de 400 agences un peu partout. Nous avons Christine au 32-16. Christine, bonjour.
Oui. Mais dites-moi, vous êtes dans une bonne merde.
Vous êtes venue avec les oiseaux, visiblement, ce matin.
Ben, je suis dans le sud, donc...
Mais vous avez bien raison, Christine.
J'ai un extérieur, voilà.
On vous écoute.
Voilà. Alors, je vous appelle parce que moi, ben, justement, c'était pas un problème de place pendant le confinement, mais d'aménagement. Donc, mon fils a décidé d'aménager une salle de sport dans notre maison, mais à la cave. Or, nous avons une maison très ancienne qui est en bord de cours d'eau. Et la cave était avant une écurie, donc c'est humide et il y avait du salpêtre.
Oui.
Donc il a traité le salpêtre sur les murs, enfin on a assaini, on a enlevé l'humidité. Mais là maintenant il veut recouvrir le sol et j'ai peur qu'en recouvrant le sol, l'humidité remonte et se mette entre le sol et...
Et le revêtement. Alors j'ai vu effectivement vos photos. Gilles Val, notre producteur, me les montre à l'instant. Donc effectivement, une problématique. Ça a l'air très humide. Alors la première des choses, c'est de traiter l'humidité. Mais si vous avez une rivière à côté, vous allez avoir du mal à assécher la rivière. Donc il y a une solution radicale. C'est de faire un cuvelage dans la cave, c'est-à-dire de mettre une boîte en béton en quelque sorte dans la boîte qui est la vôtre avec un puits de décompression. Des spécialistes savent très bien faire cela. En tout cas, dans l'état actuel des choses, la première des priorités, c'est de ventiler. Donc, il faut ventiler votre sous-sol un maximum. Si vous ne voulez rien faire d'autre pour l'instant, il faut trouver le moyen de mettre un revêtement qui ne soit pas un revêtement complètement étanche, qui puisse donc drainer l'humidité. Alors là, voilà, il y a deux solutions. J'en parlais tout à l'heure pour la terrasse, mais ça vaut aussi pour une salle de sport, c'est de mettre des caillebotis, tout simplement. C'est-à-dire, vous savez, ce sont des grandes dalles de 50-50, voire il en existe d'un mètre sur un mètre, qui sont donc des lames de bois ajourées entre, enfin, c'est-à-dire ajourées, entre les lames, il y a un jour, donc ça permet une ventilation. Sinon, il y a des lames de PVC qui sont des lames ou des dalles plutôt, qui se font par emboîtement. D'ailleurs, l'assemblage se fait par emboîtement. Il y a des dalles de PVC qui sont au revers, un peu en nid d'abeille, si vous voulez, vous voyez. C'est ce qu'on appelle un envers calandré. Ce type de revêtement permet une certaine circulation de l'air en dessous des dalles, et par les joints, l'humidité peut s'échapper. Donc, ce seraient les solutions, si vous voulez, évidemment les moins onéreuses. Surtout pas de revêtement étanche. Complètement étanche, c'est-à-dire surtout pas, par exemple, de PVC ou de revêtement caoutchouté, parce que là, vous allez bloquer l'humidité en dessous. Et d'ailleurs, si vous mettez, par exemple, des dalles de caillebotis que j'évoquais, vous pouvez mettre une feuille de ce qu'on appelle le polyane en dessous, qui évite les remontées d'eau, mais qui, malgré tout, permettent leur évacuation en périphérie. Donc voilà ce que je vous proposerai de plus simple.
Ouais. Et après, on m'avait aussi parlé d'un revêtement, de passer avant de mettre mon revêtement final. Une sorte de résine.
Ouais. Si vous voulez, ce que vous allez faire, si vous mettez une résine ou si vous aviez un revêtement complètement étanche, c'est que vous allez reporter l'humidité en périphérie et vous allez avoir à ce moment-là des remontées capillaires sur les murs. C'est-à-dire que vous allez rejeter l'humidité en périphérie et c'est pas une bonne chose. Il vaut mieux laisser l'humidité s'évaporer quelque part et permettre et assurer une très bonne ventilation, éventuellement un déshumidificateur électrique. Qui vous permettra de retirer jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Hein. Les petites boîtes avec les cartouches, ça sert strictement à rien. Enfin, je vais me faire des copains là.
Merci beaucoup, Christine. Christian,